À peine avons-nous le temps de voir passer les 7 jours qui composent une semaine, qu'une autre commence et s'achève, et nous voilà finalement à nouveau lundi soir, alors que 15 jours viennent de filer en un clin d'œil, en train de se pourlécher les babines à l'idée d'écouter une nouvelle fois de 20h à 21h, l'émission qui vous offre pour le bien de tous, pour le bien de l'humanité, je dirais, une heure pleine du jazz le plus actuel et le plus du moment qu'il soit. Je rappelle aussitôt les différents tuyaux mis en place pour accéder à cette écoute, soit le bon vieux poste à Galène, l'aiguille dressée sur les 101.5 de la bande FM à Angers, soit sur internet sur www.radio-g.org, soit enregistré et podcastable sur www.jazzitude.fr. A vous de choisir, quoi qu'il en soit. La première partie de l'émission de ce soir sera exceptionnelle puisque consacrée au grand musicien Daniel Humer. Puis, deuxième partie tout aussi exceptionnelle puisque nous découvrirons ensemble deux disques pondus encore chauds par François Rollin et Claude Tchamitchian. Alors, cessons-là le blabla, dégourdissons nos oreilles, ce soir c'est Jazzitude et ça commence tout de suite. J'ai acheté le disque qui va suivre un peu par acquis de conscience, un peu pour les noms des musiciens qui composent le trio, mais avec la crainte que trop radical je ne puisse en saisir les subtilités. J'avoue cela. Mais j'avoue également que j'y suis entré très vite, avec une grande délectation, car il n'est certes pas des plus aisés, mais la volonté que les musiciens mettent à sortir des ornières, à proposer une beauté brûlante, ne peut que saisir tout un chacun, et c'est très vite qu'on devient addictif au disque Full Contact, qui présente en rang serré le saxophoniste Tony Malabi, le pianiste Joachim Kuhn et le batteur Daniel Humer. Et de Humer, il en sera question, justement, après ce premier morceau intitulé Buried Head. Thank you. venons d'écouter Tony Malabi, Joachim Kuhn et Daniel Humer sur le disque Full Contact paru chez Beat Jazz en 2008. Daniel Humer donc. Au mois de mars de cette année, Daniel Humer était l'invité de l'Europa Jazz Festival qui lui a concocté une tournée de 10 dates en Pays de Loire pour un régional tour qui restera dans les mémoires. 10 soirs quasi d'affilée, Daniel Humer et son baby boom, à savoir Christophe Moniaux au saxophone alto, baryton et sopranino, Mathieu Donnarier au saxophone ténor et soprano, Manu Koggia à la guitare et Sébastien Boisseau à la contrebasse, ont joué une musique totalement vivifiante, pleinement moderne et toujours ancrée dans les racines du jazz, comme l'expliquera Daniel Humer. Et pour présenter le personnage à qui ne le connaîtrait pas, on peut dire que Daniel Humer a participé à une bonne partie de l'histoire du jazz, qu'il a joué avec la quasi-totalité des musiciens de ses 50 dernières années, que son jeu de batterie est des plus complets et originaux qu'il soit, et qu'il lui manque juste d'être américain pour être changé en star. Mais de cela, il se moque. L'homme est entier, il sait où il va, et il sait ce qu'il veut, et c'est simple, c'est continuer à chercher. Après un parcours sans faute, il reste pertinent et grande force de proposition sur la scène jazzistique. Aussi était-ce un grand honneur que de pouvoir l'interviewer pour Jazzitude en mars dernier. Nous étions à Cholet, dans son hôtel en face le Jardin de Verre, où il jouerait le soir même. Au cœur de la tournée, ma première question a donc été tout naturellement « Comment vous sentez-vous ? Comment sentez-vous le groupe ?»
C'est un groupe qui n'est pas conventionnel dans sa distribution de la musique. Je entends par là que on a des thèmes qui sont un peu ouverts et qui permettent d'aborder un peu toutes les situations et de prendre toutes les initiatives que l'on veut. Donc, j'ai pas l'impression de faire le même concert tous les soirs. Et puis, j'ai surtout l'impression qu'on n'a rien à vendre. On n'a que le plaisir de jouer ensemble, essayer de faire le mieux possible. Donc ça se passe bien. Alors la forme, elle dépend toujours un peu du son, de ce qu'on a mangé à midi, ou ce qu'on a mangé avant de jouer. Mais c'est vrai que dans la moyenne, je trouve que c'est plutôt très très bien. Le jazz, c'est une conversation entre plusieurs musiciens avec un thème de conversation. Alors, si les réponses à les questions sont déjà trop préparées, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de véritable initiative de développement d'une conversation. Donc, on fait le moins possible de répétitions, on prépare le moins possible de coups, on a simplement des clés, des portes qui nous permettent d'aller à certains endroits quand on a envie, à l'initiative de chacun. J'ai pas du tout. D'abord, je déteste le terme chef d'orchestre. J'ai jamais voulu le faire en 50 ans. C'est peut-être le premier orchestre que je chapeaute, si je peux dire. J'aime pas ça. J'aime bien que les gens jouent ensemble, qui jouent ensemble se sentent complètement libres de prendre des initiatives. Pour autant que ce ne soit pas des initiatives égoïstes de se mettre en avant à tout prix. Mmh. Alors, moi, je ne le fais pas, je pense ne pas le faire, et je ne veux pas que les autres le fassent. Par contre, j'aime bien que quelqu'un prenne les devants. Alors donc, ça enlève tout ce qui est musique préparée. Toute façon, la musique préparée, elle est intéressante que lorsqu'il y a des compositions de compositeurs, par exemple dans la musique classique, quand vous écoutez Stravinsky, Tchaïkovski, ou je ne sais pas, Mahler, vous avez affaire à des compositeurs professionnels qui écrivent de la musique qui ne peut pas être changée, qui ne peut pas être déviée de sa destination. Nous, on n'est pas des compositeurs, on prépare des clés. Je ne peux pas le dire autrement, vous avez des clés qui sont des fois très belles, mais ce ne sont pas des compositions qui nécessitent la stricte exécution de la pièce. Donc tout ce qui est un petit peu ouvert m'intéresse plus parce que ça donne du champ à l'improvisation. Le jazz, c'est avant tout de l'improvisation. Et quand on parle du free jazz, pour moi, le free jazz, ça n'existe pas parce que le vrai la vraie liberté dans le jazz, c'est de pouvoir jouer ce que l'on veut, quand on veut, avec qui on veut. Alors voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Moi, la musique moderne, c'est ça. J'ai plus envie de faire une relecture de trucs, de musique que j'ai fait mieux, avec des meilleurs, il y a 35 ans. Je vois pas pourquoi j'irais jouer dans un groupe avec un ténor ou un sax alto comme Cannonball Adderley, étant donné que j'ai joué avec l'original à l'époque. Alors déjà, c'est fatigant d'en faire la même chose, mais le faire moins bien, c'est... Donc là, je suis avec des gens qui sont dans une tradition tout à fait jazz que j'aime, qui est intemporelle, mais qui jouent de la musique fraîche, de la musique libre, de la musique que j'appelle actuelle parce qu'elle change tout le temps. C'est pas des clichés qui se... Allez. Mm-hmm. C'est pas du jazz bête, surtout. Parce que je trouve que la plupart du temps, quand on écoute des groupes de jazz dits traditionnels, le principe est bête. C'est un peu toujours la même chose. On a le thème, après il y a le chorus de ténor, après le chorus de trompette, ensuite le piano, ensuite il y a un petit peu de contrebasse, après il y a des 4-4 à la batterie, la fin on sait ce que... Le jazz c'est pas une récitation de folklore. Et il y a une grande différence entre la musique improvisée et le folklore jazz. Moi j'ai plus envie d'écouter du folklore jazz, je le connais par cœur, et je préfère écouter... Si je dois écouter du folklore jazz, je prends Louis Armstrong ou les gens de l'époque, puis je me régale à écouter ce qu'il y avait de mieux. Mais si je dois me refarcir ça, non. Et j'insiste lourdement là-dessus. La vraie modernité, c'est ça. C'est d'arriver sur scène avec un concept et puis de développer ce concept en ayant ce qu'on appelle les roots, les racines d'une chose qui est indispensable à cette musique de jazz. S'il n'y a pas les roots de jazz, on ne peut pas fonctionner. Le jazz, c'est une façon de jouer la musique avant d'être une musique. Mais on ne peut pas en faire une musique si on n'a pas les clés de ce qu'il faut pour jouer, les règles du jeu pour faire du jazz. Mm-hmm. Pour ça que je ne crois pas du tout à des musiciens classiques qui viennent, qui disent on va jouer un petit blues. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est. C'est une connaissance très particulière d'un espèce de folklore qui est devenu par la suite une forme d'art. Mais je veux pas retomber dans le folklore. Voilà. Je continue à 71 ans à jouer parce que ça me donne beaucoup de plaisir. Alors moi, ma règle, c'est beaucoup m'amuser en jouant avec les autres, sans jouer. Je ne joue pas tout seul, mais je prends un certain plaisir personnel à jouer avec les autres en apprenant, et on paye pour ça. Donc voilà, si on me paye seulement et je ne m'amuse pas, ça ne m'intéresse pas. Si je m'amuse seulement et qu'on ne me paye pas, ça ne m'intéresse pas non plus, parce que je suis musicien professionnel. Voilà, mais en ce moment, la situation est juste, on est respecté, on est accueilli avec gentillesse et délicatesse. Voilà, toutes les choses sont réunies pour que j'ai envie de jouer. Je suis joyeux et souriant parce que ce qu'on me donne autour me donne du plaisir. Voilà, y a rien de pire pour moi que de jouer avec des musiciens avec lesquels je n'ai pas de contact ou que je n'aime pas. D'ailleurs, je ne le fais plus. Alors, ça arrive quelquefois par accident que je sois obligé de me farcir un musicien qui m'intéresse moins ou qui soit à mes yeux moins bon. Et là, ça peut prendre des proportions épouvantables parce que je suis capable de perdre tous mes moyens. Il y a des batteurs qui arrivent à jouer avec n'importe qui avec une régularité formidable. Moi, si les conditions ne sont pas réunies, je perds complètement l'appétit et la notion de travail. je pense qu'il ne faut pas faire du cinéma, mais chacun a une gestuelle qui peut être belle. Il n'y a pas de raison de ne pas mettre ça en avant. Je pense qu'un musicien, il se regarde autant qu'il s'entend, en tout cas pour le public. J'aime bien qu'un orchestre soit visuel, que tout le monde ait l'air d'être sain et habillé proprement. Je ne demande pas de costume d'orchestre. Mais je déteste les jeans sales, les mecs qui arrivent en t-shirt, avec des lunettes de soleil, tout ça, ce n'est pas mon truc. Un musicien, c'est un ouvrier, c'est un travailleur comme les autres. Il n'y a pas de raison de mettre un costume d'orchestre. Mais j'estime que quand les gens sortent de chez eux, font l'effort de venir, on doit non seulement les respecter en commençant à l'heure, mais on doit se présenter de manière à ce que c'est un spectacle. Alors il y a plusieurs degrés dans le spectacle. Nous, on est dans le premier casier, c'est-à-dire essayons d'être juste comme on est. Mmh. Voilà. J'aime pas les costumes de scène, j'aime pas les accessoires de scène, mais c'est important que ça ait l'air plaisant. En tout cas, ce qui est très important, c'est que lorsque quelqu'un ne joue pas, qu'il donne l'impression que ce que les autres jouent l'intéresse. Mmh. Vous voyez, alors ça, c'est une chose à laquelle je tiens toujours, que vraiment on ait une espèce d'écoute collective qui permette aux gens de montrer qu'on fait un travail et qu'on est alerte quant à la musique produite. Mmh. Ce que vous ressentez, vous, devant, en tant qu'auditeur, n'est peut-être pas ce qu'on joue sur scène. Il faut se méfier. Moi, je me rappellerai toujours d'un concert de Miles Davis à l'Olympia, où j'étais avec ma femme, et il y avait toute la bande superbe de Jeannette et compagnie. Et j'étais dans la salle, et j'ai dit à ma femme, j'en peux plus, c'est pas bien, on s'en va à l'entracte. Mais comme ce sont des copains, on est allé dans les coulisses pour dire bonjour, et puis je voulais sauver discrètement, puis on a été coincé, le concert a recommencé sans qu'on ait le temps finalement de quitter le backstage. Et j'ai écouté la deuxième partie de l'intérieur, c'est-à-dire comme si j'étais sur scène. Et je me suis aperçu que ce n'était pas du tout la musique qu'on entendait devant. Alors il faut toujours se méfier en tant qu'auditeur de ce que vous entendez vous et de ce qu'on produit nous. Mmh. Parce que la reproduction de la musique, c'est le problème numéro un de la musique de jazz. C'est-à-dire qu'on devrait jouer pour des gens qui seraient assis au milieu de l'orchestre. Ça, c'est important parce qu'il y a des tas d'effets qui ne sont pas au premier degré, qui font que cette musique fonctionne bien pour nous et qui ne passe pas. Alors ça, c'est une très très grosse difficulté d'arriver à trouver un son qui ne nous empêche pas d'être dans le détail. Très franchement, je joue égoïstement pour mes copains et ce qui m'importe, c'est que ceux avec lesquels je travaille, qui sont des spécialistes de ce genre de travail, sortent avec la banane. Si tout le monde a la banane et que tout le monde est content en sortant, c'est qu'on a fait le mieux possible. Alors, c'est le mieux qu'on puisse donner aux gens. Moi, je joue jamais pour le public. Le minimum que j'essaie de donner au public, c'est de donner un petit rapport en annonçant des morceaux, en un petit truc d'humour pour leur faire comprendre qu'ils sont là quand même et qu'on se rend compte qu'ils sont là. Mais en fait, ça ne m'intéresse pas du tout de jouer pour les gens. Mmh. Je ne pense pas que ce soit une démarche égoïste. Je pense que c'est la frontière de la soupe. Je pense qu'il y a beaucoup de musiciens qui font de la soupe pour les gens, qui jouent pour les gens et qui font des choses qui ne sont pas vraiment d'une grande qualité musicale simplement parce que ils veulent plaire. Mmh. Alors, si ça ne plaît, si ce que l'on fait ne plaît pas à 100%, ce qui est vraiment le cas, parce qu'on n'a pas une réputation, les gens sont très contents, mais on n'est pas des gens qui remuent les foules. si on n'a pas ça, c'est pas parce qu'on sait pas le faire, c'est parce qu'on veut pas le faire. Parce que, croyez-moi, je suis un vieux renard et je connais toutes les ficelles qui font qu'on peut faire marcher et vendre un truc. Mais je fais cette musique-là, j'ai jamais fait pour vendre. Si je dois vendre, j'irai travailler comme banquier en Suisse, mais pas comme musicien. Beaucoup d'admiration pour les héros du jazz, mais depuis le début, je crois que j'ai compris que le jazz, c'était pas une question de passeport, de couleur, mais de personnalité et de connaissances artistiques et d'intelligence. Et je n'ai jamais changé d'avis. Alors, il n'y a pas de jazz. Vous avez dit tout à l'heure, moi j'aime beaucoup le jazz français. Il n'y a pas de jazz français. Il y a des musiciens qui jouent du jazz en France, qui jouent très très bien, comme il y en a d'autres en Italie, et ils jouent toujours pas du jazz italien. L'intérêt du jazz, c'est qu'il est international, sans passeport. Il a une base de départ sur la musique afro-américaine, mais cette musique afro-américaine, elle n'est pas arrivée toute seule, elle n'est pas tombée du ciel. Il y a une partie du folklore des quadrilles français. Les premiers thèmes de la New Orleans, c'était par exemple Tiger Eye, qui est un des morceaux les plus connus. Ça s'appelait La Rage du Tigre, et c'était un morceau du folklore de Roubaix. C'est un quadrille de Roubaix qui était joué par l'arrière-grand-père de Guy Pedersen, contrebassiste parisien. Bon, alors, c'était un truc qui faisait rompa, pompa, pompa, la la pa. Alors on a jazzifié ça, mais c'est un mix de plein de choses. Le jazz, c'est formidable. Le jazz, c'est un panier sans. Très, très profond, dans lequel on peut balancer quasiment tout, à condition qu'on joue vraiment le jeu et qu'on respecte les règles. Je suis musicien professionnel sans pratiquer de métier, avec les règles de ce métier-là. La seule règle que je me donne, c'est de respecter les gens qui payent. Puisque je demande de l'argent, je veux que ceux qui en donnent n'ai pas l'impression d'être volé. Le reste, c'est une notion amateur de plaisir et de faire une chose qui m'est indispensable à mon bon équilibre. Et je fais maintenant plus de peinture que de musique parce que j'ai plus de satisfaction à passer des heures dans l'atelier à peindre. J'ai une boulimie de ça, j'ai un besoin, comme j'avais besoin de jouer quand j'avais 20 ans. Alors, je prends énormément de plaisir à jouer de la musique. Je pense qu'après 10 jours, là, j'aurai envie de prendre une petite semaine de repos. Il y a très longtemps que je n'ai pas joué 10 concerts de suite. Je joue 3-4 fois par mois, ça me suffit largement. Déjà que ça soit heure fixe, ça me dérange, parce que des fois, à 8h30, je n'ai pas envie de jouer. Mais malheureusement, si on est professionnel, on est obligé de... Mais dans l'ensemble, je joue... Parce que ça m'amuse, c'est mon truc, j'en ai besoin physiquement, intellectuellement, humainement, parce que j'ai des contacts, je suis content de voir mes copains, je suis content d'être dans une voiture à nous raconter des histoires, mais c'est une forme de vie. Alors là, je regarde pas l'âge. L'âge, pour moi, ça va être le jour où je sentirai que je suis physiquement au bout du truc, ou que vraiment ça n'apporte plus rien. Au fait que je continue à participer à la scène. Et on a une discussion, pour finir, je suis un peu long, mais c'est important. L'autre jour, un des membres de l'orchestre a dit « Oui, mais maintenant, ça serait bien quand même que quelques-uns laissent la place aux jeunes. » Ça m'a beaucoup choqué, ça. Et j'y ai réfléchi en rentrant, et je me suis demandé si c'était vraiment comme ça qu'il fallait le voir. Parce que ça, pour moi, c'est une attitude de gens qui vont à l'usine et qui disent maintenant, il y en a d'autres qui attendent le job. C'est pas un job de faire du jazz. Oui. Et quand on voit des vieux musiciens ou des vieux peintres, on peut pas leur dire d'arrêter. C'est pas des professions où on met les gens à la retraite. Miro, quand il peignait à 80 et quelques... On avait l'impression de voir un enfant, il avait un bonheur. Il faut pas voir ce métier comme ça. Et si on veut dans cette optique d'arrêter de jouer, il y a beaucoup de musiciens qui à 30 ans devraient arrêter de jouer parce qu'ils jouent déjà comme des vieux. Alors, en fait, c'est là que ça se joue. C'est pas une question d'âge, ni de passeport, ni de couleur. J'insiste encore sur ces choses. Le jazz, c'est une entreprise artistique. Et artiste, on n'est pas moins artiste à 70 qu'à 25.
Remercie ici Simon et Sébastien qui m'ont permis de réaliser cette interview que vous pourrez réécouter sur jazzitude.fr si vous le désirez. Nous avons conclu tout ça par le morceau Good Mood paru sur le deuxième disque du Daniel Humer Baby Boom et les musiques figurant entre les mots de Humer sont également issues de ces deux disques. Passons maintenant à un disque fort attendu par votre serviteur et qui ne cesse de revenir comme de lui-même sur ma platine. Je veux vous parler du tout nouveau disque solo, après First Flush en 1993, rendez-vous compte, du pianiste grenoblois François Rollin, que je tiens pour un des grands maîtres de l'instrument. disque solo fabuleux, un monde en soi, ni du jazz ni autre chose, de la musique surtout, des compositions riches, denses, à écouter et réécouter. Et ce soir, je n'en dirai pas trop, simplement, je vous laisse découvrir le morceau « Le mécano » de la Générale. Thank you. paru sur le label La Forge en 2009, premier extrait, car nous y reviendrons dans le futur, dans de futures émissions, du disque Ostinato de François Rollin. Il est certains disques dont on sait à la première écoute, et même si on n'en a pas encore saisi toutes les subtilités, qui nous accompagneront toute notre vie tant la musique engagée y est entière et sans apparat superflu. Une musique comme un feu, un foyer, auprès duquel de temps à autre on viendra se réchauffer lorsque la dureté de la vie le réclamera. Ce disque solo du contrebassiste Claude Tchamitchian est de cette trempe. Rarement nous aurons entendu sonner une basse comme cela. Une nouvelle fois bravo à Gérard de Haro pour la prise de son. Rarement le son produit, que ce soit à l'archet ou en pizzicato, n'aura été le vecteur d'une émotion brute qui va directement toucher le cœur. C'est un disque somptueux, le morceau de ce soir s'appelle « Désir d'elle » et c'est une avant-première car le disque sort le 11 juin. Another Childhood de Claude Chiermission est sorti cette année sur le label Émouvance. Pour finir l'émission de ce soir, je vous propose une petite friandise délicatement concoctée par la chanteuse Mina Agossi sur son nouvel album qui se pique au jeu de la reprise en réinterprétant un morceau des Beatles intitulé And I Love Her. Mina Agossi, les années passant, sait se rendre de plus en plus indispensable dans le paysage musical français. Son disque s'intitule Just Like a Lady et paru chez Naïve en 2010.
And if you so my love, you'd love her too. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to me. And I love her. A love like ours could never die. As long as I have you near me,
avec la voix de Mina Gossi, que soupiredaise l'émission de ce soir qui rend ici son dernier souffle. Je vous laisse continuer à naviguer sur les ondes calmes ou remuantes de votre radio favorite et vous présente mes excuses pour cette voix diminuée que je vous ai fait entendre ce soir. Nous nous retrouvons dans 15 jours, portez-vous comme des charmes, pour l'heure que la soirée soit belle. Salut à toutes et tous.